à Paris sur 94.8
et sur radioj.fr.
Radio J.
Il est 15h, merci de nous rejoindre pour l'après-midi pré-shabbatique. Tout de suite, les infos avec Ethany Belaïch.
On ouvre ce journal sur le front nord. Au moins 10 roquettes en provenance du Liban sont tombées en zone ouverte près du mont Meron cet après-midi. Des frappes qui n'ont fait ni dégâts ni blessés. Plutôt en fin de matinée, un drone lancé depuis le sud du Liban vers la Galilée a été abattu par Tsahal. Une femme a été légèrement blessée par les débris dus à l'interception de cet engin dans la ville de Yarka, dans le nord d'Israël. La France a proposé un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Mais quels sont les détails de cette proposition, Pascal Sunshine?
Selon le journal libanais Al-Akhbar, il s'agirait d'un plan en trois étapes. Dans un premier temps, le Hezbollah et les autres milices au sud Liban cesseraient leurs attaques contre Israël et contre les casques bleus de la FINUL. Israël, de son côté, cesserait ses frappes au sud Liban. La FINUL pourrait reprendre ses patrouilles sur la frontière. Ensuite, les milices chiites libanaises devraient démanteler toutes leurs installations militaires au sud Liban et reculer à au moins 10 km au nord de la frontière avec Israël. Israël, de son côté, reprendrait sa coordination avec la force d'interposition de l'ONU et accepterait le redéploiement de l'armée régulière libanaise au sud du fleuve d'Italie. Enfin, le Liban et Israël reprendraient leurs négociations sur le tracé de leurs frontières terrestres.
Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. La Turquie exige un cessez-le-feu à Gaza pour lever l'embargo économique contre Israël. Une interruption totale des exportations et des importations israéliennes intervenues dès hier. L'embargo se poursuivra jusqu'à ce qu'une trêve complète dans la bande de Gaza soit signée. Nous ne pouvons pas accepter ce qu'Israël fait dans les territoires palestiniens. Le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et Israël s'élève à 9 milliards 500 millions de dollars et nous avons fermé cette porte. C'est ce qu'a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan cet après-midi. En réaction, le chef de la diplomatie israélienne a ciblé le président turc dans un message incendiaire. C'est ainsi qu'un dictateur se comporte, s'est indigné le ministre Israël Katz sur le réseau social X. Les manifestations anti-israéliennes vont à volo aux États-Unis. Un policier new-yorkais a ouvert le feu lors d'une évacuation à Columbia. C'est ce qu'a confirmé hier un porte-parole du bureau du procureur de district. Personne n'a été blessé, aucun étudiant n'était à proximité immédiate du policier. En Californie, à Los Angeles, des centaines de policiers ont démantelé un campement pro-palestinien à l'université UCLA hier matin. Plus de 130 manifestants ont dans la foulée été arrêtés. Au total, plus de 2000 personnes ont été interpellées ces deux dernières semaines, surtout les États-Unis. En France, Sciences Po Paris a fermé ses principaux locaux pour la journée dans le cadre de la protestation pro-palestinienne qui sévit sur ses campus. En prévision de nouveaux blocages, les forces de l'ordre ont bloqué la rue Saint-Guillaume dans le 7e arrondissement de la capitale. 91 étudiants qui occupaient encore les locaux de l'école ont été évacués en fin de matinée. Pour le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Jonathan Arfi, il faut que l'État soit ferme sur la question des mobilisations qui secouent le monde universitaire français.
Je demande aux autorités d'utiliser la force publique pour déloger ces étudiants. Vous savez, il y a quelques jours, il y avait eu une précédente occupation avec, à la fin, une négociation pour faire sortir les derniers étudiants, les 14 derniers étudiants et une communication de Sciences Po qui avait été très, très polémique et très controversée. Je veux le dire, ça témoigne du fait que la stratégie de la négociation ne marche pas avec les radicaux. Si nous lâchons, ce qui se joue, c'est pas simplement le destin de nos universités, mais au fond, la nature de notre débat public de manière générale et puis aussi la manière dont vont se passer les prochaines semaines avec les élections européennes et le risque de récupération par notamment la France insoumise.
Le président du CRIF ce matin au micro de RTL, la mobilisation qui ne faiblit donc pas puisqu'une grande action pro-palestinienne a débuté il y a une heure sur la place du Panthéon. Matignon promet que la fermeté est et restera totale après l'évacuation hier de 23 sites perturbés à travers tout le pays. Du sport pour terminer ce journal avec du football et le match nul des Marseillais face à l'Atalanta Bergame en Ligue Europa. À la hauteur de l'événement, l'Olympique de Marseille a dominé le club italien hier soir en demi-finale aller de la compétition, mais n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. Avant le match retour prévu jeudi prochain à Bergame, l'espoir d'accéder à la finale reste donc intact.
Merci Etanit. Prochain journal sur Radio J à 15h30. À suivre l'émission pré-shabbatique avec le Rav Mevorar Zerbib.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza. Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10 uniquement sur Radio J.
Radio J.
À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des déportés juifs de France du dimanche 5 mai à 18h au lundi 6 mai à 18h. Pendant cette lecture publique ininterrompue seront lus, un à un, les noms des personnes déportées par les convois numéro 22 à 57. La lecture des noms se déroulera au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy Lagny à Paris, dans le 4e arrondissement. Une manifestation organisée par le Mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles des déportés juifs de France et le consistoire sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8.
Radio J, 15h-16h30.
Steve Nadjar.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct sur Radio J pour notre après-midi pré-shabbatique. Je vous présente d'abord les horaires de ce Shabbat à Haremot. Entrée à Paris ce soir avant 20h51, sortie demain à 22h06, 20h51, au plus tard ce soir 22h06, demain. Voilà le programme qui vous attend dans la suite de cet après-midi sur Radio J. 16h05, le judaïsme au quotidien autour de Chaim Nissemom et de Nelou Kohn. 16h15, la paracha, le Dvar Torah avec la rabbinite Maria Chadret, suivi de la chronique du président du consistoire de Paris et d'Île-de-France, Joël Mergui. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver le Rav Mevorar Zerbib. Bonjour Rav Zerbib et Shabbat Shalom.
Bonjour Steve, bonjour à toutes et à tous en cette veille de Shabbat à Haremot. Nous sommes le 10e jour du Homer, c'est pour ça que notre générique est adapté à la période vocale, oblige. Et puis nous sommes veille de ce Shabbat à Haremot, premier Shabbat de la période entre Pessah et Shavuot, par Hachar Haremot, qui nous évoque le culte sacrificiel qui avait le jour de Kippour. On est dans Kippour, mais à Haremot, un côté un peu triste après la mort des enfants d'Aaron. La mort des enfants d'Aaron qui est arrivée, en fait, le premier Nissan. C'était au moment de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire. Il y a ici, on est sur quelque chose de particulier, on est un Shabbat, on va bénir le mois de Iyar, on arrive à Rosh Chodesh Iyar, et on lit dans la paracha un événement qui est arrivé à Rosh Chodesh Nissan, alors qu'on est à la fin du mois de Nissan. Il y a des choses ici de réflexion, et puis comme on est dans les Shabbatot qui sont entre Pessah et Shavuot, c'est la période de prédilection pour l'étude des Pirkei Avot, des Maximes de nos Pères. C'est Mishnayot peut-être les plus réputées, les plus populaires, les plus étudiés de toutes les Mishnayot. C'est, alors à la base, c'est 5 chapitres, auxquels on a rajouté un 6e chapitre qu'on appelle Kinyan Torah, l'acquisition de la Torah, comme ça on a sur les 6 semaines d'après Pessah, parce que en fait il y a 7 semaines quand on compte la première semaine qui est dans Pessah, de Shabbat, Chol HaMoed Pessah. Alors dans ce cas-là on a 7 semaines, mais si on ne compte pas la première semaine où il y a Pessah, on a donc 6 semaines de Pessah jusqu'à Shavuot, un peu à l'instar des 6 semaines où on lit les parachutes de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, sortie d'Égypte, Pessah, don de la Torah, Shavuot, tout est présent. Mais sur ces Pirkei Avot, j'aimerais partager avec vous une réflexion originale sur les liens entre a priori les Avot. Alors Avot, ça peut avoir plusieurs sens, ça peut dire les patriarches, les pères, Avot étant le pluriel de Av, c'est un pluriel particulier puisque Avot c'est un pluriel qui sonne comme un féminin, ce sera Avim si ce sera masculin. Mais enfin bon, il y a des comme ça des choses curieuses de la langue qui sont pas au hasard. Mais enfin, c'est pas le moment de les développer. Avot, ça peut être les patriarches. Avot, ça peut être aussi les éléments clés qui peuvent être les sources d'autres réflexions, comme par exemple les Avot Melacha, les travaux interdits le jour du Shabbat. Il y en a 39 Avot Melachot, 39 travaux originaux desquels il y a des plusieurs toldot, des travaux qui découlent. Et puis Avot, c'est le nom aussi de la première bénédiction de l'Amida qui fait référence au patriarche. Alors, la prière, l'Amida, la prière d'une façon générale dans le traité Brachot, on dit que Tefilot Avot Tiknum, les prières à la base ont été instituées par les patriarches et dans cette période du Homer, qui est une période spéciale. Le Ramban nous dit que normalement cette période était comme une sorte de Chol HaMoed, autrement dit un moment propice. Vous savez, quand on est à Chol HaMoed, un jour de demi-fête, comme un jour de fête, comme un jour de Shabbat, sont des jours de Kedusha, de sainteté, qui nous permet une certaine proximité avec Hachem. Alors il faut faire attention parce que des fois, une proximité qui n'est pas gérée peut être la catastrophe qu'on retrouve avec Nadav Aviou, mais Korvatam Lifnei Hachem, quand il s'était rapproché de Dieu et pas dans les bonnes conditions. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans cette proximité pour être dans, je dirais, dans le cadre qui nous est donné par les patriarches, justement. Alors c'est intéressant parce qu'on parle des patriarches. La Mishnah, la première Mishnah des Pirkei Avot nous fait référence à Moshe. Moshe qui belle Torah Mishinaï. Moshe a reçu la Torah au Sinaï. Alors, quelle suite on peut trouver entre Moshe et les patriarches? Alors, j'ai trouvé une notion assez intéressante, c'est qu'on nous dit que Moshe Rabbeinu a fait 515 prières, valeur numérique du mot Tefila, et 515 prières pour entrer en Israël, valeur numérique du mot Vaitranan, 515 prières, c'est le symbole de Moshe. Alors 515, c'est un multiple de 103. Et on peut remarquer que les multiples de 103 peuvent avoir un sens très intéressant à travers la prière et les patriarches. En effet, le lieu du Beth Amigdash, le lieu du temple à Jérusalem, va être appelé par Abraham au moment où il va faire la Akedat Yitzhak, la montagne Har. Har s'écrit Hesh, He, Resh, ça fait 205. On lui rajoute le Kollel, ça fait 206. C'est deux fois 103. Ce même endroit, plus tard, Yitzhak, c'est Yitzhak la soir bassadé, Yitzhak est parti pour parler, et parler, on nous dit, en fait, c'est un langage de prière dans les champs. Ce même lieu que Abraham avait appelé Har, montagne, Yitzhak va l'appeler Sadé, le champ. Or, Sadé, c'est écrit Samer, Dalet, et Samer, c'est 300, Dalet, 4, et 5, ça fait 309. 309, c'est 3 fois 103. Ah, tiens, on a une suite, là. Abraham, Har, Yitzhak, Sadé, et Yaakov, quand il va faire le rêve, il va dire, c'est Beth Elohim, c'est la maison de Dieu. Il va appeler ce même endroit, Baït. Bah, il s'écrit Bet Yud Tav, Bet 2, Yud 10, Tav 400, 412. 412, c'est 4 fois 103. Alors, une suite remarquable. 2, 3, 4 fois 103, eh bien, vont donner Har, Sadé et Bayit. Et 5 fois 103, eh bien, ça fait 515, c'est la prière de Moshe. Alors, il y a ici peut-être un lien remarquable de Moshe au patriarche. Vous allez me dire, mais 103, c'est quoi? 103, c'est la valeur numérique du mot Egel. Ah, le veau d'or. Le veau d'or que Moshe Rabbeinu va demander le pardon de ce veau d'or, si c'est si n'est que d'être effacé. Mais ce qui va être le contraire du veau d'or, c'est un avodat Hashem. C'est celui qui va en faire le combat, c'est le prophète Élie. Élie Onavi va, à l'heure de Mincha, à l'heure d'après-midi, combattre la avodat Zara, l'idolâtrie. Alors remarquez que Mincha, ça fait aussi 103 comme Hegel. Élie Onavi, qui était en confrontation contre la avodat Zara, contre l'idolâtrie, comme Moshe va être aussi enterré sur le mont Nebo, qui en face Baal Péor, pour que l'idolâtrie de Baal Péor n'accuse pas les enfants d'Israël. Alors là, il y a quelque chose qui est de Moshe, les patriarches, à travers la prière. Mais ça va très loin, cette histoire, parce que la première Mishnah de Pirkei Avot nous dit que Moshe a reçu la Torah, il l'a transmise à Yehoshua, son serviteur et son élève surtout. Yehoshua l'a transmis aux Zékénim, les Zékénim aux prophètes. Prophète, ça nous fait penser, ça peut nous faire revenir aux patriarches, parce que remarquez que celui qui t'appelait prophète, dans le livre de Bereshit, le premier, c'est Abraham. Dieu dit à Avimelech, la femme rend Sarah à son mari, et parce qu'il est prophète, et Vipel Batra Vichier, il va prier pour toi, et tu vas vivre. Abraham est appelé prophète, donc on retrouve prophète, et il va prier. Tiens, on retrouve la notion de prière, parce que, en fait, le prophète se dit Navi, qui vient du mot Niv. Niv, ce sont les lèvres, c'est l'expression. Le prophète, c'est celui qui exprime. Alors, donc, il y a une notion d'expression avec les prophètes. Bon. Et puis, alors, on nous dit que, donc, les anciens ont transmis la Torah aux prophètes, et les prophètes aux membres de la grande assemblée. Les membres de la grande assemblée, Anshei Knesset Agdola. Et alors, pourquoi on les appelle les Anshei Knesset Agdola, les membres de la grande assemblée? Parce que ils ont rétabli quelque chose qui a été arrêté. Anshei Knesset. Knesset, c'est une notion de rassemblement, comme Bet Knesset. Ah, Bet Knesset, c'est la synagogue, le lieu où on prie. Alors, on retrouve la prière. Et Anshei Knesset Agdola, ce sont ceux qui sont à l'origine, à la base, des textes de la prière tels qu'on l'a aujourd'hui. La constitution de l'Amida, le Kiddush, l'Avdala, les textes fondamentaux, on les doit aux membres de la Grande Assemblée. Et alors, pourquoi ils sont appelés les membres de la Grande Assemblée? C'est encore un lien avec la prière et avec Moshe. On revient à Moshe, le premier mot de la Mishnah des Pirkei Avot, des maximes de nos pères. Nos pères comprenaient aussi patriarches. En effet, Moshe, dans la paracha de la Yira, dans la paracha de Ekev, c'est dans le livre de Devarim, chapitre 10. Chapitre 10, c'est un chapitre extraordinaire. C'est un chapitre où, au tout début, au verset 12, chapitre 10, verset 12 de Devarim, c'est là-bas où il est marqué « Ma Hashem Eloke Rachol Meimar Kim Leira ». Qu'est-ce que Dieu te demande? C'est seulement de craindre. On dit, c'est quoi le craindre? Comment on va craindre Dieu? En faisant 100 bénédictions par jour. « Ma Atirama et la Mea ». Et la base de l'essentiel des bénédictions qu'on fait dans une journée, c'est surtout à travers la prière. Puisque dans la Amida, il y a 19 bénédictions, on a la Amida du prière du matin, de l'après-midi et du soir, ça veut dire 3 fois 19, 57 bénédictions, rien qu'avec avec la prière, je dirais, pure et dure. Donc, les bénédictions sont liées à la prière. Et alors, dans ce fameux chapitre 10 du livre de Devarim, au verset 17, à Moshe, Dieu dit de Dieu, « Akel Hagadol Hagibor Ve'anora ». Il va dire que Dieu est grand, Gadol, Gibor, qu'il est puissant, Ve'anora, qu'il est redoutable. Voilà, ça vous fait penser au début de la Tefila, début de la prière. « Akel Hagadol Hagibor Ve'anora ». Ça vous rappelle ce qu'on appelle Birkat Avot, la bénédiction des patriarches. Oui, la bénédiction des patriarches, c'est comme ça que s'appelle la première bénédiction de l'Amida, et qui, après avoir évoqué Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak et Dieu de Yaakov, nous dit, Akel Agadol Gibor Vanora, Dieu qui est grand, qui est puissant et qui est redoutable, ces phrases qui sont liées à ce qui a été évoqué par Moshe. Pirkei Avot, Moshe qui bel Torah Misinaï, on est dans la Tefila. Mais après, on nous dit, on parle de Yashek Nestak de la. Pourquoi? Parce que Jérémie, chapitre 32, verset 18, vous le trouverez dans l'Aftara qu'on fait quand on fait la paracha Béhar. Et là-bas, donc chapitre 32, verset 18 de Jérémie, est marqué que Dieu est osé chesed à la fim, il fait de la bonté pour demi-génération, shalem avon avot el chek benehem, et après il dit akel agadol agibor. Et après il dit, il parle de Dieu qui est grand et qui est puissant. Il n'a pas dit Vanora. Pourquoi il n'est pas dit Véanora? Parce que Jérémie est un contemporain de la destruction du temple. Il dit comment il y a des ennemis qui font la fête dans l'endroit, dans l'endroit du temple, qui vont souiller l'endroit du temple. Et on va dire Véanora, il n'est pas craint. Alors il a enlevé le mot Nora, et c'est dans sa citation, il dit Akel, Agadol, Agibor, sans dire Véanora. Quelques temps plus tard, Daniel, chapitre 9, verset 4. C'est Daniel qui fait référence à une époque de Darius, le fils de Assurus. Darius, le fils d'Assurus. Et, enfin, c'est un texte très, très intéressant. Et là-bas, il parle de Hagadol Véanora, Dieu qui est grand et qui est redoutable. Il a enlevé Agibor. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a l'exil, il y a l'asservissement parmi les nations. Où est la force, où la puissance? Alors il a dit Agadol Véanora, il n'a pas dit Agibor. Remarquez qu'Agadol est toujours, mais alors que Moshe avait dit Agibor, Daniel a enlevé Agibor, Véanora, c'est Jérémie qui a enlevé Anora, mais et arrive l'Anshet Knesset Agadol, les membres de la Grande Assemblée, et ils vont dire, mais comment est-ce qu'on peut survivre à travers toutes les vicissitudes de l'histoire? C'est la preuve que Dieu est puissant et redoutable. Et c'est pour ça que dans Néhémie, chapitre 9, toujours chapitre 9, tiens, c'est Daniel, chapitre 9, qu'on avait Agadol et Véanora, et bien c'est dans Néhémie, chapitre 9, verset 32, 32 c'était dans le chapitre de Jérémie, Jérémie c'était chapitre 32, alors dans Néhémie, c'est chapitre 9, verset 32, alors que dans quand on avait les versets où il manquait les mots, c'était dans Daniel, Jérémie, Daniel c'était chapitre 9, et dans Jérémie c'était chapitre 32, et là, dans Néhémie, c'est chapitre 9, verset 32. Et là, il est marqué, eh bien, Akel, Agadol, Agibor, Véanora. Tout est mis en place avec Dieu grand, puissant et redoutable. Tout a été remis en place dans cette citation donc de Néhémie, qui fait partie des membres de la Grande Assemblée. Et c'est pour ça qu'on les appelle les membres de la Grande Assemblée, parce qu'ils ont rétabli Agadol, Agibor, Véanora, qui se trouve justement dans le début, je dirais presque dans l'introduction de la tefila, de la prière. Alors, il y a ici quelque chose qui est pas anodin sur la prière, où dans les textes on va nous dire que la bénédiction la plus importante de toute l'Amida, c'est Birkat Avot, la bénédiction des patriarches, le début, la première bénédiction de l'Amida. Alors Avot par rapport au patriarche, Avot par rapport à Pirkei Avot, mais Pirkei Avot qui commence avec le nom de Moshe, hein, vous savez, il y a des traités qui portent le nom du premier mot, par exemple Betsa. Betsa, ça veut dire l'œuf. C'est pas un traité qui parle de recettes culinaires sur les œufs ou comment on fait les œufs durs. Non, Betsa, c'est le traité qui parle des lois de Yom Tov. D'ailleurs, certains l'appellent ce traité Yom Tov. Mais on l'appelle Betsa parce que elle commence avec le mot Betsa. Comme on peut dire le traité qui parle de la fête de Pourim, et on l'appelle pas Pourim, alors que Souka, on l'appelle Souka, mais comme Souka, comme Megillah qui parle de Pourim, on va d'après le premier mot. Donc là, les Pirkei Avot, on aurait pu les appeler les Pirkei Moshe, puisque le Moshe, c'est le premier mot de tout le traité des Pirkei Avot. Et non. Mais il y a un lien entre Moshe et les Avot, c'est-à-dire Avot, les patriarches, à travers la tefila, à travers la prière. Et dans cette première citation qui nous donne la chaîne de la transmission depuis Moshe, en passant par Josué, les anciens, les prophètes, les membres de la Grande Assemblée, on retombe sur nos pattes avec la prière, puisque les membres de la Grande Assemblée sont à la base du texte de notre prière. Et c'est encore plus intéressant sur le point où, d'après le Talmud de Jérusalem, les membres de la Grande Assemblée étaient 85. 85, je traduis en lettres, ça fait P. P, c'est la bouche. La bouche pour exprimer la prière. Maintenant, d'après le Talmud de Babylone, dans le traité Megillah, on nous dit qu'ils étaient au nombre de 120. les membres de la Grande Assemblée. Alors, remarquez une petite chose très intéressante. Pour recevoir la Torah, Moshe monte dans le Sinaï et va rester pendant 40 jours. 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah. 40 jours, 40 nuits, petite réflexion, ça veut dire que si on fait trois prières par jour pendant 40 jours, ça fait 120 prières. 120, le nombre de membres de Knesset, de la Tchèque Knesset Agdola, c'est le nombre de prières que Moshe a fait quand il était dans le Sinaï à travers tous les jours. Alors c'est remarquable ce lien entre la prière, Moshe, les membres de la Grande Assemblée, même dans leur nombre, entre le nombre des membres de la Grande Assemblée et le nombre de prières que Moshe fait pour recevoir la Torah. Moshe reçoit la Torah, mais c'est la première phrase des Pirkei Avot. Moshe kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah Sinaï. Tout correspond et tout s'oriente vers une notion de tefila, de prière. Parce que en fait, quand on doit étudier la Torah, il faut pas oublier de demander à Dieu d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit. Parce que c'est vrai que pour l'étude de la Torah, eh ben on doit se consacrer, on doit se casser la tête, on doit s'asseoir, c'est pas comme ça tout simplement à être à bouquiner, comme on pourrait dire. Non, l'étude de la Torah demande un effort, demande un travail, amal la Torah, une fatigue de la Torah. Et c'est cette fatigue de la Torah qui nous permet d'en faire l'acquisition de la Torah. Et cette acquisition, eh bien Moshe kibel Torah Misinaï, Moshe va prendre on arrive à cette acquisition avec quelques introductions. La première, c'est l'humilité. Moshe kibel Torah Misinaï. Il a reçu du Sinaï. Non, pas du Sinaï. Il a reçu de celui qui s'est révélé au Sinaï. Non, du Sinaï, parce que Sinaï était une petite montagne. Et le Sinaï va nous apprendre la leçon de l'humilité. L'humilité qui va être le fer de lance de la grandeur de Moshe. Aïch Moshe, Anavéon, Mikola, Adam, Achal, Péodama. La plus grande qualité de Moshe, c'est son humilité. C'est son humilité qui est la clé de sa connaissance et de son lien avec la Torah. Mais c'est pas tout. C'est aussi la prière. On doit demander à Hachem d'ouvrir notre cœur. Avant de commencer à étudier, eh bien, de formuler une petite prière à Dieu pour ne pas se tromper, pour avoir pas forcément toutes les facilités pour comprendre, parce qu'il faut se fatiguer. Mais pour pouvoir arriver aux bonnes conclusions, retrouver le vrai de l'étude de la Torah. La mitzvah, c'est quelque chose. Et de pas se tromper, ni dans l'achra. Et d'avoir l'ouverture vers toutes les nouveautés, les chidushim de la Torah, de cette beauté, de ce bonheur qu'est l'étude de la Torah.
מול אלי וגודלו, ירד גופי חולו. מול אלי וגודלו, ירד גופי חולו. בצר לי יקרא לו, יעוזר לי קהלו, ובטוב לב אשיר לו. יעוזר לי קהלו, ובטוב לב אשיר לו. יצור עוזר לי קהלו. יצר לו עולם, ובצלמו אדם עושים רצונו. בהמה כולם יצר לו עולם וצלמו אדם עושים רצונו בהמה כולם בחר בגזע עבדו אברהם לקדש לו לעד לעולם עליהם פורץ צילו והוא עוזר לקהלו עליהם פורץ צילו ועוזר לקהלו שבחב ממנה ומיד מלו שבחב ממנה ומיד מלו יאלי עוזר לי קלו
מול אלי וגודלו ירד גופי חולו מול אלי וגודלו ירד גופי חולו מצר לי אקרא לו יעוזר לי קלו ובטוב לב אשיר לו יעוזר לי קלו ובטוב לב אשיר לו
יא אלי עוזר לי קלו שרי השמד ואוי בי קלה ועם ידיד עלו יעלה שרי השמד
ואוי בי קלה ועם ידיד עלו יעלה
kiryane mana Ya ozer likhalo ובטוב לב אשיר לו יא עוזר לי קלו ובטוב לב אשיר לו יא יא אלי עוזר לי קלו
מולה לי וגודלו ירד גופי חולו מצר לי אקללו יא עוזר לי קלו ובטוב לב אשיר לו יא עוזר לי קלו ובטוב לב אשיר לו יא
יא אלי עוזר לי קהלו
Vous écoutez Radio J
Radio J
Sur le site radioj.fr Sur la page Facebook de Radio J Et sur l'appli Radio J
Radio J
Il est 15h30, merci d'être avec nous. Votre après-midi pré-shabbatique se poursuit sur Radio J. À suivre le rappel des titres présentés par Etanis Belaïch.
Bonjour à tous. Le Hezbollah a tiré 10 missiles contre le Mont Meron sans faire de dégâts ni de blessés cet après-midi. En revanche, une habitante du village de Rose de Yarka dans le nord d'Israël a été légèrement blessée suite à l'envoi d'un drone par le Hezbollah en Galilée, un drone que l'armée israélienne a déclaré avoir intercepté. Un accord de normalisation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite serait en cours de négociation selon le New York Times. Une normalisation qui passerait notamment par la création d'un État palestinien dans un délai de 3 à 5 ans. Le ministre turc du commerce a confirmé que la Turquie suspendait ses échanges commerciaux avec l'État hébreu et ce, jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu permanent à Gaza soit décrété, mais aussi qu'un flux sécurisé d'aide humanitaire dans le territoire soit assuré. Nous ne pouvons pas accepter ce qu'Israël fait dans les territoires palestiniens, de son côté déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'Iran a libéré l'équipage d'un navire battant pavillon portugais lié à Israël, qui a été saisi il y a un mois. Téhéran qui garde tout de même le contrôle du navire lui-même. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. En France, un rassemblement pro-palestinien étudiant est en cours, place du Panthéon à Paris. Des militants de la France insoumise ont rejoint les rangs des manifestants. À quelques centaines de mètres de là, sur la place de la Sorbonne, l'Union des étudiants juifs de France a de son côté installé une table du dialogue sur la guerre en cours à Gaza. Enfin, attention, il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales en vue des élections européennes le 9 juin prochain. L'inscription en ligne n'étant plus possible, il vous faut désormais vous inscrire auprès de votre mairie avant ce soir, si ce n'est pas déjà fait.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
Radio J. La journée s'annonce bien. Vous écoutez Radio J.
Yeah.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal Gadol Batorah, c'est une règle fondamentale à la Torah. C'est cette phrase qui nous introduit la Tefila. Et c'est très intéressant puisque c'est une phrase que Rabbi Akiva a mis en exergue en disant Zeklal Gadol Batorah. Zeklal Gadol Batorah, c'est pas marqué dans la Torah, mais ce qui est marqué, c'est Ve'afta le'ra'acha kamocha. Et dans cette période du Omer, on est en deuil par rapport aux élèves de Rabbi Akiva, Luna Agu Kavod Zelazé, qui ne se faisaient pas suffisamment Kavod, il n'y avait pas suffisamment de respect les uns les autres, et cette unité qui manquait dans le Kavod des uns des autres, eh bien c'est justement aux élèves de Rabbi Akiva qu'on reproche, parce que Rabbi Akiva avait mis ça en exergue, et donc on pouvait pas ne pas comprendre ça. Et c'est très intéressant ce point, parce que le Harizal dit qu'avant de commencer sa tefila, l'introduction à tefila, c'est d'accepter son prochain comme d'aimer son prochain comme soi-même. C'est dans le fondement de ce que dit le Harizal. Alors c'est fabuleux ce point-là. Je reviens sur les Pirkei Avot et la tefila, en remarquant que le premier chapitre des Maximes Nos Pères, celui qu'on lira ce Shabbat, est composé exactement de 18 Mishnayot. 18 Mishnayot, comme les 18 bénédictions de l'Amida. Aujourd'hui, on en a 19, certes, mais on l'appelle toujours Shmoneh Esrei. Fondamentalement, c'est les 18 bénédictions. Et il y a un point sur le principe de la Tefila qui me semble assez remarquable. On sort il y a quelques jours de la fin de la fête de Pessah. La fin de Pessah est bien marquée par le lien avec le Mashiach, avec le Messie. En effet, on a dans la paracha du premier jour des derniers jours de fête, dans le Shiratayam, le cantique de Merouj, Hashem Imloch Lavet, Dieu régnera pour toujours, qui fait référence à la royauté pour toujours, étant messianique, on a ce point-là. Et puis l'Aftara du dernier jour de Pessah, du huitième jour de Pessah, Od Ayom Enov Lahamod, tiré du livre d'Isaïe, c'est l'Aftara du Mashiach. Vous allez dire, mais en Israël, on ne la fait pas, puisque en Israël, il n'y a que 7 jours. Ben, c'est pas grave, on le rattrape à Yom HaAtzmaout, où il y a l'Aftara de d'ailleurs Benov la mode. Mais quand on va parler des textes qui font référence au Mashiach, il y a un grand nombre. Hein. C'est alors le Rambam Maïmonide considère que on doit accepter le principe de la venue du Mashiach qui est écrit dans la Torah, c'est pas seulement qui est écrit, mais qui est écrit dans la Torah des points dans le Chumash, comme la Shiratayam, le Cantique de Merouj, ou aussi on fait référence à la résurrection des morts, puisqu'il est marqué Az Yashir Moshe. Alors Moshe chantera. Il n'y a pas marqué Az Char Moshe. Moshe a chanté. Non, chantera. Donc ça veut dire que Triat Amitim, la résurrection des morts, est marquée en toutes lettres. Alors, allusion, certes. Enfin, il y a ce point. Et puis, quand on va regarder dans tous les textes, il y a des références au Mashiach. Tehilim, c'est truffé de références, mais surtout, il y a le Tehilim 72, l'Ishlomo à Shlomo. Alors, c'est un Tehilim très, très intéressant, le Tehilim 72. Il commence d'une façon très particulière, au lieu d'un Lamnatsear, d'un Mizmor. Non, l'Ishlomo. Et il se termine avec Kalou Tefilot David, ou Kalou Kolou, on a les deux lectures possibles, se terminent là les prières de David Ben Ishai, c'est le verset 20 du chapitre 72, et c'est la fin du deuxième livre des Tehilim, qui correspond, le deuxième livre, c'est correspond au deuxième livre de la Torah de Shemot, et c'est la fin, quand on découpe le livre des Tehilim en 7 jours pour pouvoir lire tout le Tehilim sur une semaine, c'est la fin du mardi, la fin de lecture du Yom Shlishi. Et à partir donc du 73, on a les lectures du Yom Revi. Alors, le mardi, le Yom Revi'i, c'est pas anodin parce que la semaine quelque part a comme point culminant le Shabbat avec trois jours qui préparent avant et trois jours qui sont après. Et trois jours qui préparent avant, c'est à partir du mercredi jusqu'au Shabbat, donc c'est le point culminant. Et puis après du Shabbat jusqu'au mardi, on redescend un peu. Et là, en quelque part, on a une fin de ce passage des Tehillim, alors avec encore des références à la prière de, assez remarquable. Chapitre 72 des Tehillim, dans ce chapitre, au verset 5, il y a marqué Yiraoucha im Shamesh. Ils te craindront avec le soleil. De là, on a tout le principe de faire la tefila au Netzachama. À Netzachama, c'est-à-dire au moment où le soleil se lève. C'est le moment idéal de la prière du matin. Au verset 15, Vel Ba'adot Tamid, il a prié pour lui tout le temps. Et puis, référence au Mashiach, évidemment, au verset 17, Lifnei Inon Shemo. Alors, il est marqué Inin, mais on lire Inon. Inon, c'est un nom du Mashiach. Donc, le nom du Mashiach est là, Inon Shemo. Et après, se termine Amen Ve'amen, au verset 19. Et là, se termine Tehillim. Et oui, on nous dit que c'est le dernier Tehillim que le roi David a fait avant sa ptira, après qu'il ait fait l'onction de Shlomo. Donc Mashiach Shlomo, comme le dit Rashi et Sforno dans leurs commentaires. Alors vous allez me dire, mais attendez, on n'est pas à la fin des Tehillim là, on est pratiquement au milieu, 72 sur 150, c'est pas. Et là, eh ben on va nous expliquer que comme dans la Torah, Ein Mukdam Umuchar, il n'y a pas d'ordre chronologique dans l'écriture des Tehillim, parce que tenez-vous bien, si on avait vraiment l'ordre, peut-être pas l'ordre chronologique, mais un certain ordre dans l'organisation de la lecture des Tehillim, on pourrait faire ressusciter les morts. Et oui, la lecture des Tehillim, des psaumes, dans un certain ordre qui serait un ordre de vérité, pourrait avoir la possibilité de dépasser tout le problème de la mort. C'est pour ça d'ailleurs que le roi David avait dit « Je veux continuer à vivre même après ma mort », quelque part il dit. « Je veux vivre dans tous les mondes ». Et le roi David, qui est cité tous les jours, et j'irais presque constamment, parce que les Tehillim, les psaumes, c'est le roi David. Or, quand on lit les Tehillim, bien, c'est comme si on fait parler encore le roi David. Et donc, le roi David est toujours constamment présent dans nos prières, présent dans notre vie, présent et donc toujours, entre guillemets, vivant. Et donc, il y a ici, dans ce lien avec la Tefila, parce que le roi David, si je vous ai parlé tout à l'heure des trois patriarches qui ont fondé la base de la Tefila, de la prière, Moshe, qui est le porte-drapeau de la Tefila, de la prière, puisqu'il a fait 515 prières, 515 valeurs numériques du mot Tefila, puis c'est l'homme de la prière par excellence. L'autre personnage fondamental dans la prière, c'est évidemment le roi David, parce que il n'y a pas de prière sans introduction de psaumes, parce que les psaumes sont donc à la base de toutes les prières, et donc le roi David, eh bien c'est il est complètement lié avec la Tefila, et on ne pouvait pas dans ce lien entre les Pirkei Avot, la Tefila, ne pas faire un petit détour entre guillemets par la personnalité du roi David dans toute sa grandeur et dans toute son acceptation.
Don't.
Kevedan et Koladam le Khavzechout juge toute personne avec bienveillance. C'est important. Quand on a la possibilité d'analyser le comportement de son prochain, soit d'une façon positive, soit d'une façon négative, on doit toujours aller du côté du positif. C'est une mitzvah. Certains disent une mitzvah de la Torah. Alors c'est important quand on est dans l'acceptation de la tefila, mais aussi quand on est dans l'acceptation de l'autre, aussi c'est de prendre en considération l'opinion de l'autre. Hein, on le dit au début de la paracha, Haremot, après la mort des fils d'Aaron. Une des choses qui est reprochée aux fils d'Aaron, c'est ils se sont pas fait cavaux l'un l'autre. Ils sont allés tous les deux amener un feu étranger. Le feu était étranger parce qu'il n'était pas en adéquation l'un avec l'autre. Alors ça, c'est une approche intéressante. De savoir, parce que c'était un peu le contraire de Ephraïm et Ménaché. Ephraïm et Ménaché qui, Ephraïm est passé a été mis avant Ménaché, et puis Ménaché ne s'est pas plaint de cela. Il y avait une adéquation entre les deux. Maintenant, sur la mort des fils d'Aaron, il y a quand même une question qui se pose. Une question comme, un petit peu une question qu'on peut poser sur cette période du Homer. Période du Homer qui à la base est une période joyeuse, un petit peu comme on l'a dit, comme Chol HaMoed nous dit les textes, les jours de demi-fête. On va à la rencontre de l'acceptation de la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, badaboum, deuil par rapport à quelque chose qui arrivait quand même il y a 2000 ans pratiquement, la mort des élèves de Rabbi Akiva. Combien il y a eu de morts depuis? Combien il y a eu de... Alors, et on doit être en deuil pendant toute l'année, si c'est, on doit suivre. C'est quoi cette histoire? Et puis, même au début, alors c'est vrai que notre paracha va nous parler du culte sacrificiel qu'il y avait le jour de Kippour, donc pour Kippour, mais la vérité c'est que les fils d'Aaron sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan, le Rosh Chodesh Nissan. Le mois de Nissan est un mois de fête, on ne fait pas Tachanoun, on ne fait pas de supplication. On fait pas. Et là, le premier jour du mois de Nissan, premier jour d'inauguration du Mishkan, c'est la mort des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, dont Moshe dit d'eux qu'ils étaient peut-être plus grands encore que Moshe et Aaron eux-mêmes. Et puis, il faut pas croire. Yakar Bein Hashem Maftal Chassidav. La mort de ces Chassidim, elle est très chère aux yeux de Dieu. Dieu est beaucoup plus sensible encore que nous, entre guillemets, sur la disparition des tzadikim. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les enfants d'Aaron? Alors Dieu, non mais vous savez, les enfants d'Aaron avaient été condamnés à mort au moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, ils se sont un peu trop approchés, ils ont vu des choses qu'ils ne devaient pas voir, et là ils étaient condamnés à mort, mais Dieu ne voulait pas attrister le don de la Torah. Ah bon? Il ne veut pas attrister dans la Torah, alors on attend le moment de la joie, de la liesse, de l'inauguration du Mishkan, le sanctuaire, et là il n'y a pas de gêne. Alors, on ne veut pas attrister le don de la Torah, mais on est prêt à ce qu'il soit attristé au moment où on est dans l'inauguration du Mishkan. Et attention, tout le monde va être en deuil de la disparition de Nadav Avihu. Al-Koleda et toute l'assemblée, Yivku et Tassarefa, Cher Sarafachem, vont pleurer. C'est ce que dit Moshe à Aaron. Vous ne devez pas vous mettre en deuil, mais c'est toute la communauté qui va être en deuil. Donc, on était dans la fête de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, chose qui était attendue, etc. Et puis à ce moment-là, ben tout le monde est en deuil et on voulait pas qu'il y ait un deuil au moment. C'est difficile tout ça. Le Maguid de Douvna donne une parabole intéressante. Il dit qu'un roi avait constitué une grande ville très importante. Il voulait que ce soit la capitale et qu'il y ait tout ce qu'il faut dans cette ville, avec les moyens de communication, au niveau éducatif, au niveau de jardin. Il y avait et puis alors comme ça il s'était attelé pour qu'il y ait de tout au niveau urbanisme, que ce soit agréable et tout. Et puis il a demandé à ses conseillers qu'est-ce qui peut manquer dans cette belle ville qui a pas. Et il y a quelqu'un qui dit, mais on a oublié de faire un hôpital. Ah oui, un hôpital, c'est important pour pouvoir soigner ceux qui vont être malades. Et dans cet hôpital, il faut qu'on ait des professeurs de renommée internationale qui vont être des grands spécialistes. Alors, ça ne chôme pas en deux temps, trois mouvements. construit un magnifique hôpital, le plus moderne qui puisse exister, et puis on va faire appel à de grands spécialistes, et puis notamment des professeurs de premier rang, et tout est prêt pour accueillir le premier malade. Ben voilà, il y a un malade, une personne qui n'est pas en bon état, hein, pas très très bien, mais le grand professeur dit oui, on l'accepte, il est aux admissions, on va s'occuper de lui. Et alors tout le monde ont les yeux rivés vers l'hôpital, avec pour l'instant ce seul malade qui est vraiment dans un état et qui décède. Non, qui décède. Alors, on comprend pas, parce qu'on dit pourquoi on l'a admis à l'hôpital si on savait que il allait décéder, qu'on n'allait pas le sauver. Bon, on va dire qu'on essaye tout pour essayer de sauver, mais il convoque le grand professeur et dit mais vous nous avez donné un espoir et pas trop compris votre comportement. Et le médecin d'expliquer on a voulu prendre cet exemple pour que on sache que on peut pas tout faire. Certes, on va être un hôpital à la pointe, on va faire tout ce qui est dans nos possibilités de sauver, de soigner, etc. Mais il faut savoir que nous avons des limites et que les habitants de la ville ne doivent pas se dire de toute façon, on a un hôpital qui est extraordinaire, des médecins hors pair, on peut vivre n'importe comment, faire n'importe quoi. Dans tous les cas, on sera de toutes les façons récupéré, on sera soigné, on sera sauvé. Eh ben non, il faut savoir que il y a des limites et on doit rester dans un comportement qui est le fondement des choses. Et ça, c'est la parabole. Et l'explication de cette parabole, c'est que la Torah est extraordinaire. C'est un cadeau suprême que Dieu a fait à l'humanité et qui a une importance capitale. Qui hem chayinu v'rechaminu. C'est notre vie, c'est la longueur de notre vie, c'est tout le bonheur de notre vie dans le Olam Haba, dans le monde futur. On va étudier la Torah. Donc, mais attention. S'il n'y a pas de kavod, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de derech eretz, si on n'a pas une appréciation du Talmid Chacham, c'est-à-dire du sage, même si c'est d'un Talmid Chacham à un autre Talmid Chacham, d'un sage à un autre sage, il n'y a pas une appréciation comme il doit être, alors c'est implacable. Ça va être la mort des Talmid Chachamim. C'était le décès des élèves de Rabbi Akiva, et c'est un décès qui doit nous inviter à la réflexion. Et c'est ça le deuil sur les élèves de Rabbi Akiva, c'est un deuil sur la compréhension de l'importance de la place de l'estime que l'on doit avoir. Juste ton prochain avec bienveillance, qu'on a eu tout à l'heure comme illustration musicale, c'est au-delà de cela, c'est de savoir avoir le kavod des valeurs de l'étude de celui qui a étudié la Torah, de Talmid Chacham. Alors, si entre les Talmid Chachamim, entre les érudits, il doit avoir ce respect, à plus forte raison, de celui qui est ignorant vis-à-vis de celui qui est érudit. Le kavod du Talmid Chacham est quelque chose qui est fondamental. Et c'est pour ça que si on fonctionne sur un autre système, eh bien, c'est pas bon. Et c'est ça l'introduction au don de la Torah. Et oui, si ces élèves de Rabbi Akiva sont décédés justement pendant la période du Homer, qui nous prépare au don de la Torah? Parce que justement, c'est la préparation à la Torah de ce cadeau extraordinaire. Comme le Mishkan, le sanctuaire, était un lieu extraordinaire où on va être pardonné des fautes, où il va avoir la présence de la divinité. Mais à ce moment-là, il faut faire attention. Nadav Aviou. Quand ils veulent servir Dieu, mais korvatam yifnashem, ils veulent se rapprocher de Dieu, mais ils amènent esh zara, ils amènent un feu étranger. Ils décident d'eux-mêmes ce qui va être bien, ce qui va être bon, ce qui va être la Torah. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Horu alacha lifnei rabam, ils ont enseigné une alacha devant leur maître, c'est une des fautes qu'ils auraient reproché. C'est-à-dire que quelque part, ils se sont créés leur système et se sont dit en fonction de notre système, en mon âme et conscience, ce que je pense qu'il faut, c'est ceci. C'est pas le chemin de la Torah. Le chemin de la Torah, c'est d'abord un chemin de schéma Israël. Écoute Israël, accepte. C'est d'accepter, c'est de recevoir, et en fonction de ce qu'on va recevoir, de pouvoir l'analyser, le comprendre, l'accepter, le réaliser, et pouvoir construire avec cela. Oui, il y a, on a dit, sous Sayag la Torah, c'est la première Mishnah de Pirkei Avot, faites une haie protectrice autour de la Torah. C'est ce qui était donné pour les sages de faire attention. le protéger à toi, bien sûr. Mais cette haie protectrice, elle doit émaner de la force de la Torah elle-même et de se transmettre de génération en génération par les Talmidei Chachamim qui sont pétris de crainte de Dieu et d'amour de Dieu et d'études d'une façon fondamentale. Et ne pas se dire, tiens, moi, je pense que ça doit être comme ça avec le peu d'études que l'on peut avoir des fois, et plus l'étude est restreinte, et plus on pense qu'on en connaît. Il n'y a pas plus ignorant que ceux qui s'imaginent qui sont érudits, alors qu'ils n'ont même pas conscience de l'immensité de leur ignorance. C'est terrible ce principe-là de l'immensité d'une ignorance qui va se manifester par l'estime, la surestime de soi, d'un ego, en pensant que parce qu'on connaît deux trois trucs, qu'on connaît déjà tout et on n'a même pas conscience de l'immensité de son ignorance. Alors voilà, on doit avoir une humilité. Moshe Kibel Torah, Mi Sinai, Moshe Asuri la Torah, du Sinai, c'est-à-dire de l'humilité, de l'enseignement de l'humilité du Sinai, c'est comme ça qu'on accepte la Torah, c'est comme ça qu'on inaugure le Mishkan, le sanctuaire, en ayant conscience de cette retenue qu'on doit avoir, de ne pas se dire, tiens, on va boire un peu de vin, et en buvant du vin, ben on va faire les Chaïm, quoi, c'est bien, les Chaïm, et c'est ben, Simcha, mais si c'est Eshzara, si c'est un feu étranger, ça passe pas. Ça passe pas. Et là, Nadav et Avion, qui n'étaient pas n'importe qui, et ils vont revenir en Eliyahu Navi, vous imaginez. Nadav et Avion viennent en Eliyahu Navi, en Pinchas. Ce sont des personnages extraordinaires. On ne parle pas de choses légères. On doit en avoir conscience. Dans cette préparation au don de la Torah, dans cette préparation pendant cette période du Homer, que je voulais vous faire partager dans le lien avec la Tefila, la prière, dans cette préparation. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Kit Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach.
Kumira yosi, yoino si, ra yosi, yoino si, samosi. Shelo ishinim loto, kibbutz yisai desi seilailo. Kumira yosi, yoino si, kumira yosi. Yoi no si, ra yo si, yoi no si, samo si. Shero ishinim lo tol, kevutsu isai desi seilailo. Kumira yo si, yoi no si. Shbati eschem benois Yerushalayim. Toiru eso avo mi gama neoro islo istefu shbati eschem benois Yerushalayim shbati eschem benois Yerushalayim im toiru Gama neoro islo ishtefu Ishbati eschem benois Yerushalayim
Merci Rav Mevorah Zarbib et Shabbat Shalom. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'on vous retrouve tous les matins à 6h35 pour le Dvar Torah, ainsi que les vendredis à 10h35 et 15h05.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Goodman.